CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard. 5,
2, 1. Bonjour, bon vendredi. Nuageux, certes. Certains diront, parce que c'est vrai, c'est le cas. Mais superbe vendredi parce que c'est la fin de la semaine. En même temps, je vous souhaite un emploi qui vous stimule autant que le mien. Et je vous souhaite certainement une belle journée parce qu'il n'y a pas juste le travail non plus dans la vie. Combien de personnes, puis je vais faire un cours, une cour entrée en la matière aujourd'hui, combien de personnes travaillent pour vivre et combien vivent pour travailler? Je vous explique. Pour combien de personnes le travail en ce moment, pour ceux qui sont à l'écoute, est un bonheur, donc une semi-passion, donc ce qui vous occupe principalement dans votre vie, dans le positif, OK? Et pour combien? Bien, la job, c'est plutôt une responsabilité qui vous donne de l'argent pour profiter de votre vie dans d'autres sphères, OK? 418-971-1021. Bienvenue dans leur CV. C'est ça, leur CV. De grands questionnements, parfois insipides, d'autres fois juste... à titre de raisonnement, à titre de réflexion personnelle, mais surtout une heure ensemble où on se partage plein de trucs et on a de belles entrevues. Justement, aujourd'hui, on reçoit une journaliste de Québécois. Elle s'appelle Stéphanie Martin. Je l'aime bien, je dois dire. J'ai couvert au municipal et fait divers beaucoup avec elle dans le passé. Oui, on se connaît un peu tous, les journalistes, mais ça ne veut pas dire qu'on s'apprécie tous. Pour Stéphanie Martin, je l'apprécie. Et elle a dernièrement fait... le travail d'une vie, je dois dire ça, parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle elle a vraiment trippé à faire. Elle est allée en Corée du Sud, et elle a rapporté plein d'informations, dont le fait que d'ici 2025-2026, on pourrait officiellement voyager dans les airs, soit, c'est pas un Uber normal, c'est pas un taxi normal, mais il y aurait des taxis volants qui existeraient dans quelques années. Et elle nous le raconte dans un article ce matin au sein de son média. Cependant, elle va être avec nous un petit peu plus tard à l'émission. J'ai beaucoup, beaucoup de questions pour elle. Est-ce qu'elle a senti que... on nous remplissait? Est-ce qu'elle a senti que c'était comme une course contre la montre d'être le premier pays du côté de la technologie qui offre quelque chose du genre? Est-ce qu'on a des barèmes dans le sens où si tout le monde se met à voler dans le ciel, à un moment donné, va-t-il falloir faire des autoroutes? Comment on va pouvoir les faire? C'est une femme extrêmement brillante. C'est sûr qu'elle a posé plein de questions. Elle est allée chercher aussi plein de réponses. Peut-être qu'elle n'aura pas toutes les réponses à nos questions aussi, mais si vous en avez, on va pitcher ça... pour utiliser un très bon français. On va pitcher ça un peu partout dans notre entrevue tantôt. On est vendredi, on s'amuse, on prend ça relax. À Boulevard 102.1, c'est votre place justement pour terminer la semaine en beauté. Puis on a une heure ensemble pour le faire. Voilà pourquoi ça s'appelle l'heure CV. C'est une heure ensemble. Mon nom est Pascal et à l'extérieur, je vous le disais, c'est nuageux aujourd'hui. C'est pas mal le scénario pour le week-end. Là, on nous avertit qu'il y aura de la pluie. Merci à Environnement Canada. Mais c'est vraiment ce qu'on aura pour toute la journée. Des averses jusqu'à 15 degrés comme maximum. Comme minimum, c'est 8 au courant de ce soir et cette nuit. Demain, samedi, toujours de la pluie, 13 degrés. Dimanche, nuageux, 11 degrés comme maximum. Et à partir de lundi, on retrouve le soleil. Donc, c'est un week-end cocooning. C'est un week-end, on utilise encore le démarreur à distance. C'est un week-end salon du livre. C'est un week-end, quel est votre plan? À vous de remplir la ligne après les deux points. C'est un week-end quoi de votre côté? Et on va y aller avec notre expression du jour, notre proverbe du jour. Et là, je m'en vais complètement ailleurs parce que hier, pour vous, mesdames et messieurs, j'ai perdu au moins 30 minutes à scruter des expressions québécoises. Puis Dieu sait là, que nous, quand on se donne, les Québécois. Et il y en a plusieurs qui ont attiré mon attention. J'ai pas envie de tout vous les dire ce matin. J'ai envie de m'en garder pour le mettre avec parcimonie là, à travers nos émissions ensemble. Mais il y en a deux, là, assurément, que je vais vous livrer aujourd'hui, plutôt qu'une. On est chanceux. C'est vendredi. Mais voici la première. Fais du bien à un cochon et il viendra chier sur ton perron. 100% québécois. Pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire, ben, si tu fais confiance à n'importe qui, tu risques de t'en mordre les doigts et peut-être le droit aussi. c'est très clair. Fais du bien à un cochon et il viendra chier sur ton perron. Et la deuxième que j'avais retenue pour vous en ce vendredi, c'est qui tient la poche est aussi coupable que celui qui met dedans. Donc, la personne qui est complice est aussi coupable que la personne fautive. Sachons-le, hein? C'est vendredi, sachons-le. Votre meilleure expression québécoise, c'est quoi? Ça peut être aussi une question que je vous pose ce matin. À 10h06, on part l'émission ensemble. Ah, les textos commencent à entrer en trombe. J'avais sûrement un petit bug, là. Continuez, s'il vous plaît, d'écrire 418-971-1021 par rapport à votre travail. Est-ce que votre travail, pour vous, c'est une responsabilité qui vous permet de vivre votre vie ou votre travail, c'est un peu vivre votre vie parce que c'est votre passion? J'ai envie de le savoir. J'ai envie de savoir à qui je m'adresse ce matin. Polluez, faites bugger tout ce qui est boîte texto en ce moment. Sinon, ben, rendez-vous sur Twitch, twitch.tv/BLVD/FM. Comme à notre habitude, c'est l'heure de se couler un café, d'aller chercher une boisson chaude parce que c'est pas encore l'été. Avec Corias, jamais, jamais, dans vos oreilles. On revient.
Leur CV.
Quand je réfléchis, j'ai 6 cerveaux, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1. La petite question du vendredi, est-ce que vous travaillez pour vivre ou vous vivez pour travailler? En gros, est-ce que votre job, c'est votre passion ou encore, c'est une responsabilité qui vous permet de vivre vos passions? Les textos sont entrés, continuez au 418-971-1021. Quelqu'un qui dit « Ah, moi, c'est loin d'être une passion. Cependant, c'est un emploi que j'aime avec de bonnes conditions et des collègues de travail qui me stimulent énormément. Donc, malgré le fait que je ne sois pas à mon apogée professionnel et que c'est plutôt dans ma vie personnelle que je m'accomplis. J'aime mon milieu de travail, mais ça ne m'empêche pas de me lever marabout parfois. Ça nous arrive tous, même quand la job, c'est notre passion. Quelqu'un qui dit « Le travail m'empêche de vivre ma vie, mais si je ne travaillais pas, je ne pourrais pas vivre, en fait. » Donc, le travail, c'est un engrenage. Oui, c'est bien dit, Jennifer. Mais pourquoi ton travail t'empêche de vivre ta vie? Trop d'heures? Trop de travail, justement? Un horaire atypique? Quelqu'un qui dit « Mon travail est une responsabilité, mais je rêve de trouver une passion, car je ne serai jamais à la retraite à temps plein. »
5 au 22 avril, ne manquez pas.
C'est ce qu'Élise nous écrivait par texto. Ça veut dire qu'elle va continuer de travailler dans sa vie et faire en sorte, fort probablement, de trouver un emploi là, à temps partiel qui la stimule et la passionne. Mais ça, j'avais ça, un collègue, là, il y a quelques années, à la radio, qui, lui, aimait beaucoup la radio, mais il savait qu'il a toujours été attiré à aller travailler dans une quincaillerie. Bon, il aimait ça, faire ça. Ou encore monter des meubles. C'est un gars manuel qui n'a pas fait ça toute sa carrière, mais qui tripait à faire ça dans sa vie personnelle. Fait qu'il s'est dit, quand je serai à la retraite, assurément que je vais me retourner vers cette portion professionnelle-là que je n'ai pas exploitée, plus manuelle, plus dans les gogosses, j'aime appeler. Quelqu'un qui dit, moi, mon travail, c'est une responsabilité. J'aime ce que je fais. Mais quand même, si je pouvais vivre sans travail, je serais heureux. C'est vrai que des fois, ce qui nous importe un peu, c'est plutôt la responsabilité de se lever à une heure fixe, à se coucher pas trop tard, à peut-être pas partir sur une vrille le soir pour être en forme le lendemain. Mais on aime notre travail, mais dans la cage. Je devrais dire dans les barèmes, dans les barrières que nous impose justement une certaine discipline vu le travail qu'on a à faire le lendemain. C'est peut-être ça qui, pour certaines personnes, les répugne un petit peu plus là, face à cette responsabilité-là, mais qui aiment leur travail. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Quelqu'un qui dit « Ma business s'appelle Passion informatique », ça répond à la question. Très vrai, félicitations. Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je suis vraiment sur mon X, j'adore ma job », donc c'est quelqu'un qui vit pour travailler. Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je suis plombier par plaisir depuis 1989 et là, j'arrive à la fin, la retraite est en octobre. » Wow! Est-ce que tu vas continuer de travailler? Est-ce que tu vas prendre des petits contrats ici et là, justement parce que ta job, c'est ta passion ou encore c'est terminé. Quand la retraite arrive, tu vas trouver une autre passion et tu vas explorer d'autres champs d'intérêt. C'est ça qui m'intéresse aussi. Merci pour vos textos. On voit finalement qu'il y a beaucoup plus de personnes que je croyais qui aiment leur travail. Je suis fascinée par les textos. Si ce n'est pas votre cas, c'est le temps d'écrire là, pour aller rééquilibrer un peu là, en société ce que vous pensez. Quelqu'un qui dit « Moi, je préférais voyager, voir le monde, me la couler douce. » que de travailler. C'est bien clair, mon travail n'est pas nécessairement une option choisie. Quelqu'un d'autre qui dit « Moi aussi, je préférais voyager pour voir le monde. » Bon, mais vous... je sais pas, il y a une génération, en fait, qui n'a pas vraiment travaillé. Je pense à mes parents, entre autres, puis qui maintenant ont le goût. C'est, ben, nous, dans ma génération, j'ai 30 ans, ça a été l'ouverture vers le monde par excellence avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec Internet qui a pris de l'expansion. On pouvait parler à des gens... Ben, à l'autre bout du monde, vous pouviez aussi, il y a un peu plus d'années. Cependant, c'était par la poste, un petit peu plus long avant que les lettres arrivent, mais il y avait quelque chose d'absolument romantique et charmant à écrire avec notre plume. Je pense qu'il ne faut pas que ça se perde, assurément pas, mais ça prenait plus de temps. En même temps, ça travaillait la patience, puis il y avait comme cette fébrilité-là d'envoyer la lettre par la poste, d'en recevoir une dans la boîte postale. Mais je reviens au voyage. J'ai souvent entendu certaines personnes de l'âge de mes parents, dans la cinquantaine, là, dire, par exemple, moi, j'ai pas beaucoup voyagé, ça reste un rêve. Et d'autres dire, ça m'intéresse pas du tout. Dépenser de l'argent pour aller ailleurs, vivre dans un endroit qui est pas chez moi, manger de la nourriture dont je suis pas certain, ça ne m'intéresse pas. Il y a eu comme un blocage qui a été fait aussi. Je sais pas si c'est pour le côté financier majoritairement, là, mais c'est comme s'il y en a qui trouvaient que ça avait pas d'importance dans la vie. Puis c'est correct, là, en passant dans mon discours, il y a aucun jugement. Mais ça me fascine, ça. Comme quoi, il y a vraiment des gens fermés, là, peut-être à découvrir le monde. Est-ce que c'est un stress? Est-ce une angoisse, justement, parce que, ben ça paraît gros, en fait, arriver à quelque part, pas avoir de repères, ça peut être stressant pour certaines personnes. J'ai l'impression que, tu sais, ça le serait pour moi aussi si je n'avais pas voyagé très jeune. Puis, en même temps, je vois comme un relent de beaucoup de cinquantenaires ou des gens dans la soixantaine qui se disent, hey, « Moi, là, à la retraite, là, c'est sûr que je pars avec une vanne, un campeur, peu importe quoi, et je m'en vais triper ma vie. » Et voir du pays, peu importe où je m'en vais, je sors d'où j'ai resté tout au long de ma vie. Et ça, il y a comme un sentiment de liberté, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez eu, parce que c'est beaucoup aussi de discours que j'entends. Si vous avez voyagé, si vous n'avez pas voyagé, je pense que l'un et l'autre, en fait, vont se rassembler à un moment donné, puis si vous y goûtez, vous allez triper. Mais en même temps, c'est bien correct si vous haïssez ça. Mais je sens que, de façon générationnelle, il y a eu... une grande chance de notre côté, que ce soit ouvert, que ça sente accessible, beaucoup moins stressant. T'sais, on a manqué de rien, nous, dans notre génération. Il y avait de l'emploi en masse, il y avait de meilleurs salaires, il y avait assurément du divertissement de fond en comble. On nous a donné, pour la plupart, quand on a la chance de naître dans un foyer aimant, puis sécurisant, sécuritaire, on nous a donné tout ce qu'il fallait pour avoir de la ouate dans la petite boîte. Là. Des fois, c'est pas nécessairement de la ouate financière où les dépenses sont affriolantes ou encore des semaines où on n'a pas à serrer la ceinture, c'est pas ça que je dis, mais l'amour était là, puis les possibilités était là, contrairement à d'autres générations qui ont subi finalement des crashs financiers importants. Puis malgré la pandémie, là, on reste très, très, très chanceux face à toutes les possibilités dans le monde, face à toutes les possibilités d'emploi. Je ne sais pas si ça va continuer, ça va perdurer avec la situation internationale que l'on connaît en ce moment, mais il y a beaucoup de réflexions à y avoir. Puis j'ose croire que si vous avez 40, 50, 60 ans, premièrement, merci d'être à l'écoute de leur CV de Boulevard 102.1. Mais écrivez ce qui vous a stimulé dans vos jeunes années et que vous n'avez pas revu et remis à l'horaire dans votre vie. Vous n'avez pas remis à l'heure, que vous n'avez pas continué de travailler pour. Je vous souhaite sincèrement, puis peu importe l'âge, d'écrire ce qui vous ferait du bien, que ce soit accessible ou inaccessible en ce moment, pour s'assurer que ça ne meure pas à quelque part puis que vous ne mettiez plus d'énergie ou de pensée sur ces rêves-là. La vie va vite, la vie va beaucoup trop vite. Parfois, c'est long des petits bouts. Parfois, les semaines, ce sont des mois ou des années, mais d'autres fois, ben, on se rend compte finalement que 6 mois est passé, puis 6 mois, c'est une demi-année, puis on n'a pas accompli ce qu'on souhaitait ou encore on n'a pas donné d'importance à nos vraies priorités. Quelqu'un qui me disait récemment, tu sais, c'est quoi tes priorités, toi, Pascal, dans la vie? Puis là, t'en nommes, je sais pas, 5, OK? Tu nommes tes 5 priorités. Puis la deuxième question, la sous-question à ça, c'était combien de temps tu donnes quotidiennement, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle à ces priorités-là? Moi, je dis, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, mais souvent, quand on a une famille, on a des enfants, ce qui va sortir en premier, c'est ma famille. Mais combien de temps, quotidiennement, de façon hebdomadaire et mensuelle, on donne à nos enfants? Tu sais, du temps de qualité, là. Pas à la course, pas entre deux cracks, pas dans les commissions. Combien de fois on s'assoit littéralement à jouer à manger de la fausse soupe aux bleuets, tu sais? Puis que ton enfant trippe à jouer à manger de la fausse soupe aux bleuets, toi un peu moins. Mais quand tu t'assois puis tu dis, bien, c'est ça ma priorité, puis je suis tellement chanceux ou chanceuse d'avoir pu mettre au monde des enfants puis contribuer à cette société-là, mais surtout à sa propre vie, à mon enfant, puis à ses souvenirs. Est-ce que je réalise tout ça? Est-ce que je prends le temps de savourer tout ça pour pas, rendu à justement 60 ans, me dire « Oh, la vie est passée vite, puis mes enfants ont quitté le nid, puis j'ai pas eu le temps d'en profiter, ou encore j'ai pas pris le temps de réaliser dans le moment présent. » Tu sais, après tout, le futur, ce sera dans le futur, le passé, dans le passé. Tout ce qui nous reste, c'est le présent. Justement, parlant du présent, je dois répéter parce que je veux que le plus de gens possible sachent qu'il y a un concours exceptionnel à Boulevard 101 ces temps-ci. C'est celui où on vous envoie à San Francisco. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Rock and Ball. Et c'est notre gros concours du printemps. Avec la température extérieure, ça se peut que ça vous tente d'aller en Californie. Je dis ça, je dis rien. Hein? Mais c'est en juillet où on vous envoie en Californie. Pourquoi? Pour aller voir un show de Blink-182, premièrement. Tournée réunion pour le band directement en Californie. C'est au Chase Center. Et la partie balle, c'est deux billets pour les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park. All the small things, true care, truth brings, I'll take one less... Je ne peux pas y aller, mais vous, vous pouvez aller à San Francisco sur le bras de Boulevard 101 et sur le bras de notre partenaire financier dans tout ça qui trippe, qui a dit « Ben oui, on embarque, on va gâter le monde parce que nous autres, déjà, on leur fait faire des économies. » C'est Variété 2020 qui a embarqué dans ce trip de rêve-là et qui, au quotidien, vous offre des économies en passant. Hein? Je vous le dis, quand il y a un partenaire comme ça qui embarque avec nous là, puis qui vous gâte, allez donc jeter un coup d'œil à leur inventaire, entre autres, là, des vêtements, des jouets, de la literie, de l'électronique. Ils ont une page Facebook qui va vous orienter sur ce qu'ils vendent. Puis eux, ils achètent en stock, ils achètent en surplus d'inventaire. Donc, ils sont capables de vous faire les meilleurs prix. Puis c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de mettre de l'argent dans ce concours-là pour vous envoyer dans un voyage de rêve qui vaut 4 000 et qui est simple, simple, simple comme bonjour pour être un finaliste. Quand t'entends une chanson de Blink 182 sur nos ondes, bien pas celle-là en ce moment. I know she left me roses by the stairs. Ben, c'est un exemple. Tu notes l'heure et tu t'en vas au blvd.fm dans la section concours et tu vas t'inscrire. Tu as le droit à deux fois par jour jusqu'au 26 avril prochain. C'est deux participations par jour permises. Et il y a un finaliste qui sera nommé dans Gravel dans le retour à tous les jours. Donc ce soir, encore un finaliste ou une finaliste qui sera nommé. C'est un méchant beau trip. C'est simple comme, je vous disais, c'est simple comme bonjour. Vous écoutez Boulevard 102.1 puis quand Blink 182 joue, vous allez vous inscrire. Bonne chance à tout le monde. Vraiment beau concours. On est fiers de le représenter ici, dans votre station, chez vous, comme dirait Denis Gravel.
Votre Vaux a quelques kilomètres sous le capot, mais vous l'aimez avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
À 10h26, vraiment contente d'accueillir la prochaine invitée. Je vais vous le dire, puis je vous l'ai dit en début d'émission, on se connaît parce qu'on a travaillé sur le terrain, mais pour des médias différents à travers le temps. Ça fait plus que 8 ans. Je pense qu'on se connaît maintenant. La vie va vite, on le disait, avant qu'elle arrive en studio. Puis ce matin, je faisais ma revue d'actualité. Je tombe sur un texte qu'elle a écrit pour Québécois. Puis je me dis, ben voyons donc, quelle chance qu'on ait ces lectures-là dans l'actualité, parce que vous le savez à quel point je trouve ça important qu'on puisse encore faire du journalisme à l'international, aller chercher de l'information sur place, les deux pieds dedans, pas juste un téléphone ou encore quelqu'un qui nous raconte à l'extérieur ce qu'ils peuvent vivre. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis pas que c'est pas concluant de faire ça, mais il y a rien de mieux que nos yeux quotidiens de quelqu'un qui habite Québec, qui se déplace puis qui s'en va constater des choses avec un angle particulier et qui risque de changer une fois en voyage. Et c'est le cas de notre prochaine invitée qui s'est déplacée même en studio. Bon, c'est sûr que c'est moins de kilomètres qu'elle est en Corée du Sud, mais elle a décidé de nous offrir sa présence aujourd'hui à Boulevard 102. Salut Stéphanie Martin. Attends, je vais juste rouvrir celui-là. Salut Stéphanie Martin.
Salut Pascal, ça me fait plaisir d'être ici avec toi.
Là, tu as signé un texte ce matin. J'ai pas l'impression que ce sera le seul qu'on va avoir là, dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, puis pour Québécois finalement, à travers les prochains jours. Là. Le titre, « Prendre un taxi volant dès 2025 », oui, ce sera possible dans cette métropole. Pourquoi? Parce que toi, tu es allé en Corée, oui. En voyage journalistique, en voyage professionnel, finalement. C'était en mars dernier. Et tu es allé étudier tout ce qui est moyen de transport, transport en général. Pourquoi cette idée-là? Pourquoi la Corée du Sud?
Bien, je cherchais un endroit où on a développé un réseau de transport ultra efficace. Puis je me disais, ça serait le fun de montrer le contraste avec ici. Mm. Tu connais le dossier du transport collectif à Québec? Ça tergiverse, c'est long. Un projet, on avance, on recule, on réalise jamais vraiment les projets dont on parle pendant des années. Je me suis dit, allons donc voir ailleurs. Puis j'ai choisi la Corée parce que c'est un pays qui est extrêmement innovant. C'est un des plus innovants selon Bloomberg. Il accorde à peu près 5 % de son PIB à l'innovation, donc recherche et développement, des champions de la technologie, les Samsung, LG, Hyundai, tous ces gros conglomérats, c'est là-bas.
Puis toi, donc, tu savais ça ou tu as tapé sur Google le pays innovant en transport?
Bien, c'est des recherches, puis j'ai constaté que là-bas, on avait vraiment des choses très intéressantes à montrer. T'sais. Quand tu parles des taxis volants, là, c'est pas dans 10, 15, 20 ans, c'est l'année prochaine.
Non, c'est fascinant, puis c'est sûr qu'on va en parler tout en longueur, parce que j'ai pris beaucoup de temps dans l'émission pour jaser avec toi de cette sphère-là de ton journalisme à l'international. Puis avant d'y plonger dans les taxis volants de 2025, j'ai l'impression qu'on est dans un film de science-fiction. Je me demande, va-t-il falloir faire des autoroutes dans le ciel? Comment ça va se passer? Y a-t-il des gens qui vont risquer de le faire au même titre que ceux qui ont tenté et risqué d'aller dans les fonds marins pour aller découvrir le Titanic, puis finalement, il y a un grand risque? On revient à ça, mais d'abord, la procédure du journalisme comme ça, où on voyage, c'est quoi? Parce qu'on en voit de moins en moins. Les budgets sont de moins en moins là en journalisme aussi. Mais quand ça arrive, puis on a des perles comme ça dans l'actualité, il faut sauter là-dessus. Toi, ton processus, il a pris combien de temps? Puis pourquoi ça a germé? Ça a-tu été accepté facilement?
C'est vraiment une chance incroyable. C'est une belle marque de confiance de mon employeur. Puis j'en suis très fière que Québécois accepte de mener à terme des projets comme ça. Ça nécessite un investissement. Ça nécessite aussi une confiance en la personne qui y va, qui propose un sujet, qui le réalise, le livre, et puis après ça, on a le résultat dans le journal. Donc vraiment, ça, je me considère choyée d'avoir un employeur qui me permet de faire ça. Donc c'est vraiment une suggestion. À chaque quelques mois, disons, nos patrons nous disent, avez-vous des idées de sujets que vous... Tu sais, c'est loin de l'actualité au quotidien. Oui. Là, parce que nous, au municipal, on est tout le temps dans les conférences de presse, le maire, le scrum. Est-ce que tu as une idée de quelque chose que tu voudrais faire à l'extérieur de ça?
T'es allé loin, là.
Demande-moi ça, je vais te donner la totale. Donc, j'ai fait des recherches. Moi, je suis une geek de transport. Ça fait partie de mon quotidien de parler de ces sujets-là. Donc, je me suis dit, à quel endroit dans le monde on pourrait avoir un total contraste avec ce qu'on vit ici? Puis, la Corée du Sud est ressortie dans mes recherches. Donc, je me suis dit, tentons le coup.
Ça a pris plusieurs mois. Écoute, là. Tu commences à partir de novembre dernier à te renseigner, à faire de la recherche quotidienne pour finalement partir en Corée du Sud en mars dernier.
Oui, c'est ça. Je propose le sujet, mais là, après ça, prendre contact avec la Corée du Sud.
Ça ne doit pas être facile.
Là, on pense que tout le monde parle anglais dans le monde, hein? Non.
Non?
Non, pas tout le monde parle anglais. En Corée du Sud, c'est très peu de gens, puis très peu fluents, si on veut. Là.
OK.
Donc, il faut commencer les contacts d'avance, il faut chercher qui est le bon contact. Puis
il te faut-tu des traducteurs? Il te faut-tu des gens sur place?
Sur place, j'avais une grosse aide du bureau du Québec à Séoul, un attaché en innovation qui m'a suivi, qui m'a introduit à certaines personnes, qui...
Ça peut-tu influencer un reportage, ça, si on te jumelle avec quelqu'un de la place?
Ah, évidemment que l'aide du bureau du Québec à Séoul donne des portes d'entrée. Hein, donc, quand on arrive là-bas, puis on a quelqu'un sur place qui nous accompagne, je me sentais un peu comme en mission avec le maire, mais là, la personne importante, c'était moi.
Ouais.
Tu sais, je suis pas habituée à d'habitude. Moi, je suis toujours en accompagnement, donc je suis jamais à l'avant-plan. Là, c'était moi qu'on voulait prendre en photo à la fin de l'entrevue. Je dis non, mais moi, je prends en photo. Moi, je prends les photos.
Oui.
Oh là, il se sentait un petit peu... Je dis, OK, bien, je vais faire une exception. Donc, je suis sur toutes les photos.
Puis ton esprit critique aussi, tu dois garder probablement très aiguisé parce que tu sais qu'il y en a qui vont vouloir t'influencer, vouloir certaines phrases dans tes articles.
Ah, j'ai pas senti ça, par contre. Okay. J'ai vraiment senti qu'ils étaient ouverts. Ils étaient très contents de démontrer et fiers de démontrer comment, pour eux, là, le transport, là, c'est un no-brainer. Ça ne fait pas partie des discussions politiques, c'est on le fait.
Comment tu te déplaçais là-bas, justement?
Moi, je m'en allais là étudier le transport. Fie-toi sur moi, j'ai pris du transport en commun. Du métro, du taxi, des bus. Là-bas, les bus, c'est l'efficacité même. C'est tout le contraire de ce qu'on pense, hein? Vétuste, un peu archaïque. Non. Là-bas, là, les bus partout, là, ça circule. C'est comme un balai super bien rodé.
Payais-tu avec ton cellulaire?
Je payais avec une carte de transport. Okay. Tous les... métro, tout le système fonctionne avec la même carte. Ah. Puis écoute, si tu vas à Busan, là, dans le sud du pays complètement, tu as encore la même carte qui fonctionne.
Ah, alors tout est interrelié. Donc,
exactement.
Okay. Ah, ça n'a pas à voir avec ce qu'on a ici à Québec, chose certaine. Là. Parlons des taxis volants. Oui. Parce que là, c'est ton texte qui a paru aujourd'hui. D'autres viendront à travers les prochains jours. Mais prendre un taxi volant en 2025, ce sera possible sans Corée du Sud.
Je te le dis. C'est, ça fait longtemps que c'est dans les cartons. C'est une série d'intervenants qui sont en collaboration pour rendre ça réaliste. Donc, les autorités aéroportuaires, le ministère des Transports, tous les partenaires intégrés, là, ils travaillent là-dessus depuis déjà un bon moment. Et au début, pour l'implantation, ce sera davantage les clients de l'aéroport, les hommes et femmes d'affaires, les touristes, disons, dans des corridors définis. Ce sera toujours des corridors fixes. Donc, entre l'aéroport et le centre-ville, on va atterrir sur un vestiport, qui est le nom utilisé pour ça. C'est une espèce d'héliport sur le toit des bâtiments. Donc, on va établir...
N'importe
là,
quel bâtiment, en fait, qui aura été choisi pour ça.
Exactement.
Okay.
Et puis, au début, donc, quand même une clientèle restreinte, mais c'est très, très abordable. On parle de 3,42 $ du kilomètre.
Ah, oh, mon Dieu Seigneur, c'est pas une histoire de 400 $ pour faire aéroport. Parce que là, le taxi volant, ceux qui n'ont pas vu les images ce matin dans l'actualité, c'est pas la voiture d'Harry Potter là, qui vole. C'est comme, finalement, c'est un avion, un genre d'hélicoptère. Là.
Oui, ça ressemble à un gros drone, si on veut. Donc, vous pouvez aller voir sur le site du journal, j'ai mis une vidéo qui démontre bien, parce que moi aussi, j'avais la curiosité de voir, mais je les ai pas vus sur place, mm-hmm. C'était pas encore implanté. Mais on a les vidéos qui démontrent le genre d'appareil qui va être utilisé.
Pourquoi ils ont choisi de faire des taxis volants pour être les premiers à avoir ce genre de transport-là abordable dans une grande ville où il y a vraiment un problème de congestion, de circulation, parce qu'il y a beaucoup d'habitants en Corée du Sud?
C'est l'innovation constante. Comme je te disais là-bas, c'est toujours d'aller plus loin et de rendre le temps encore plus efficace. Parce qu'en Corée, chaque minute compte. Le temps, c'est de l'argent. Leur système de base est extrêmement efficace. L'utilisation du transport en commun, c'est plus des deux tiers des gens se déplacent en transport en commun. Ici, là, c'est à peu près 10-12 %.
Par choix, par préférence?
Par utilisation, par préférence, parce que c'est efficace, parce qu'on peut travailler dans le métro. Donc, ils ont un service de base très, très efficace, puis ils veulent aller encore plus loin.
Toi, tu n'as pas attendu quand tu avais à prendre des transports en commun, malgré l'achalandage là, important?
Et c'est quoi, 8 millions de personnes par jour qui utilisent le métro à Séoul, puis j'ai toujours trouvé que le train est à l'heure, à la seconde. Quand on dit à l'heure, c'est à la seconde. Tout est prévu, on le voit sur notre téléphone, on peut le suivre en direct.
Est-ce que les gens sont polis, courtois dans les transports en commun?
C'est la discipline même, c'est l'efficacité, la propreté. Il n'y a pas de bousculade. Il y a du monde, là. On passe dans le métro à l'heure de pointe, là, j'y étais, là. Il y a du monde, mais c'est toujours un balai fluide. Il n'y a pas de congestion parce que tout ça est géré par un centre de contrôle qui adapte la circulation des trains ou des autobus en fonction de l'achalandage. Donc,
quotidien.
S'il y a trop de monde, okay. On amène un bus plus vite. C'est comme ça qu'ils le gèrent.
C'est un chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre,
OK, donc
exactement.
C'est pas plein de réseaux de transport qui essaient de
se concurrencer,
comme peut-être on voit ici, plutôt dans la grande région de Québec. Là. Mais puis quand on a choisi de faire des taxis volants comme ça, est-ce qu'on a eu des barrières? Est-ce que, parce que là, tu dis que ça va s'adresser à un peu tout le monde, mais on est dans la première phase, alors peut-être plutôt des gens d'affaires, des touristes et autres, pour faire parler de ça, faire rayonner ça. Mais à plus grande échelle, est-ce qu'on a l'intention d'en mettre beaucoup plus dans la ville?
On parle de 2030-2035 là, pour que, à terme, ce soit accessible à tout le monde. Puis même de parler de vol autonome, donc sans pilote. Quand on aura rodé le tout, eux, les Coréens, ils ambitionnent de faire voler des drones là, ou des espèces de petits avions sans pilote.
Plus petit que ce qu'ils ont en ce moment comme prototype pour 2025.
Ou à peu près la même chose, mais pour dans quelques années. Et là, du moment où on n'a plus de pilote dans l'avion, on peut diminuer les prix. Alors, on parle de une et quelques du kilomètre dans peut-être 15 ans. Là.
Oh,
donc, c'est vraiment quelque chose de très innovant. Puis, donc, je parle du taxi volant. Là-bas, on parle aussi d'un train à super vitesse, plus de 1000 km/h, qui sont en train, en ce moment, d'étudier dans un centre de recherche. Ils ont prouvé que c'est possible de le faire. Eux autres parlent de ça d'ici 2050.
Comment ça se passe? Comment ça se fait que c'est aussi rapide dans la construction entre la pensée d'un projet, l'élaboration du projet, l'assurance d'avoir des gens pour le construire, mais aussi la sécurité, et sûrement étudier dans tout ça. On ne voudrait pas faire le crash à l'international qui ferait mal jaser de la Corée du Sud. Pourquoi est-ce que c'est aussi rapide, contrairement à nous ici, mettons, juste à Québec, à quel point que le tramway, on se rappelle, il y a pas si longtemps, peut-être moins d'une dizaine d'années, Régis Labeaume riait d'Anne Guérette lors d'une campagne électorale parce qu'elle voulait en faire un, puis finalement, lui, il revient avec ça quelques mois plus tard comme étant son projet électoral. Puis finalement, en 2024, on n'a toujours rien sur les rails.
Exactement. Ce que je sens là-bas, c'est qu'il n'y a pas de politisation des dossiers de transport. Okay. Je vais te donner l'exemple du tramway. En ce moment, là, à Séoul, ils ont déjà eu un tramway à la fin des années 1800. Comme partout ailleurs, ils ont été retirés des rues. Là, ça revient parce que c'est un mode de transport qu'ils considèrent confortable. Ils ont un projet d'une ligne de tramway. Ils ont annoncé ça dans les journaux, dans un entrefilet. Donc, il n'y a pas de débat incroyable et de manchettes à pu finir pendant des années politiquement chargées et tout ça.
Tu veux dire que les citoyens n'ont pas vraiment leur mot à dire parce que quand on a un projet, on passe à l'action ou encore c'est plutôt entre les mains du privé?
Il y a toujours des consultations publiques, mais là-bas, c'est juste normal de faire des projets de transport. Donc, c'est juste normal de faire une ligne de tramway puis on n'en parle pas. Il n'y a pas de saga et de drame à long terme là, pour faire évoluer ce projet-là. C'est juste, bon, il y aura ça. Oui, on va consulter les gens le long de la ligne et tout ça, les commerçants. Mais ça se réalise, tout simplement. C'est pas politiquement chargé.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus d'enveloppes budgétaires?
Effectivement que les enveloppes budgétaires consacrées au transport en commun sont plus importantes que les enveloppes consacrées aux routes. Parce qu'on considère que la mobilité des personnes, là, on n'y arrivera pas si on bâtit juste des routes. Dans une métropole de 20 millions d'habitants, ça ne peut pas réussir. Donc, on concentre les efforts énormément sur le transport collectif.
On fait des comparatifs qui ne sont pas parfaits en ce moment, là, parce que veux pas, c'est pas le même genre de région, c'est pas le même genre de pays non plus, c'est pas le même genre de dominance au niveau finance que nous ici à Québec et autres. Mais je veux revenir sur cette politisation là, de projets. Est-ce qu'on voit beaucoup de privés aussi s'en charger puis embarquer dans ces projets de transport en commun là, ou de circulation, ou c'est plutôt municipal, gouvernemental et autres?
C'est mené par le gouvernement, okay. Avec des partenaires privés, évidemment, pour la construction et tout ça, mais ce sont des projets qui sont étatiques. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui prend la décision là, que les projets de transport, c'est comme une dépense régulière. T'sais, on n'en fait pas des questions d'enjeux nationaux. Là. Ça fait juste partie de la façon dont on développe le pays. Ils se sont dotés, il y a 20 ans, d'une vision avec des trains à haute vitesse qui font d'est en ouest, du nord au sud, le territoire au complet. Donc, avec ça, tu peux aller au sud de la Corée puis revenir la même journée en prenant un train à grande vitesse.
De façon abordable, encore une
de
fois?
De façon abordable, oui.
Mais là, la fluidité puis l'accessibilité au transport, ça a dû aider quand même pour les Coréens à faire, on a une confiance envers les projets de transport. Quand vous nous écoutez puis vous nous offrez quelque chose qui fonctionne bien, est-ce que tu as eu la chance, malgré la difficulté peut-être des fois de se comprendre, là, parce que tu parlais de l'anglais qui est un peu défaillant du côté de la Corée du Sud. Mais est-ce que tu as pu jaser de ce qui se passait ici avec eux? Ils ont-ils eu des réactions face à ça?
J'ai pas jasé de ce qui se faisait ici. Bien, en fait, on m'a demandé, vos trains circulent à quelle vitesse? J'ai dit, ouais, je sais.
Via rail, mettons, là, quand il y a une tempête, peut-être à 2 km/h.
J'ai pas osé m'avancer sur ce terrain-là parce que j'avais pas les chiffres précis, mais disons que c'est beaucoup moins rapide qu'un TGV, évidemment. Mais là-bas, quand je leur parle de... Parce que j'ai rencontré aussi des Québécois qui me décrivaient leur expérience, puis j'avais une Coréenne avec nous, puis je lui disais, comment tu te sens quand t'entends ce concert d'éloges? Ouais. Elle dit, ben nous, on est tellement habitués de ça que ça fait partie de notre vie, mais quand j'entends que les gens l'apprécient autant, je réalise la chance qu'on a d'avoir ce système qui a été établi depuis de nombreuses années puis qui fait partie de la vie quotidienne des gens.
As-tu vécu des pannes lorsque tu y étais en Corée du Sud? As-tu vécu peut-être échanger avec des gens qui vivent là-bas sur peut-être des problématiques ou des choses qu'ils aimeraient améliorer?
Non. Non. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis trompée de train deux reprises, tellement de lignes. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais partie dans le mauvais embranchement. Oups! Là, on débarque, on vire de bord.
Très simple. Très simple.
Non, j'ai pas vu de panne. Peut-être qu'il y en a, là, probablement. Là, ça doit arriver, mais tout est tellement bien rodé que
Je ne l'ai pas expérimenté. Okay. Il y a des auditeurs qui demandent, est-ce qu'il y a des gens qui sentent un certain risque quant au taxi volant, puis surtout au vol autonome qui pourrait venir en Corée du Sud?
Je sais que la sécurité est l'aspect numéro un qui est étudié par les Coréens. Puis comme tu le mentionnais toi-même, ils sont tellement fiers qu'avoir un accident dans ce type de transport-là, alors qu'ils veulent en faire un prototype démontré à l'international, ce serait catastrophique. Donc, c'est certain que la sécurité, puis la personne au ministère des Transports me le dit précisément, la sécurité est l'enjeu numéro un auquel on s'attaque pour s'assurer que tout soit bien, bien, bien sécuritaire. Et le fait que ce sera dans des corridors fixes, donc on va savoir...
Oui, est-ce qu'ils vont créer des autoroutes? Ils ont-tu pensé à... Oui?
Bien, des autoroutes, dont le corridor, oui. Le corridor sera sécurisé. Il va y avoir... On sait que quand on part de l'aéroport et qu'on se rend à tel bâtiment... Il n'y a personne d'autre qui circule dans
puis cette... les drones d'individus, les choses comme ça, comment ils vont réguler ça?
Ah, ben là, il va y avoir une zone aérienne. J'ai pas...
destruction ouais. Avec des snipers sur les toits.
Peut-être qu'ils font appel à la Corée du Nord.
Peut-être. Stéphanie Martin, tu vas faire une série d'articles qui vont paraître jusqu'à mardi prochain dans le Journal de Québec. À quoi on peut s'attendre pour les prochains jours? Aujourd'hui, c'était consacré justement à ces taxis volants-là qui vont prendre d'assaut les airs de la Corée du Sud en 2025. Demain...
On va parler du métro, de leur système qui est constamment... qui évolue constamment allongé, prolongé des nouvelles stations. On va parler du fameux projet de tramway qui a été annoncé comme ça dans les journaux dans un coin de page. On va parler des Québécois qui nous ont parlé de leur expérience, le train à très grande vitesse, qu'on appelle l'hypertube.
Qui fait jaser ici aussi parce qu'on aimerait donc en avoir un, surtout la classe affaires.
Et le réseau de train à grande vitesse aussi là-bas qui est très élaboré puis qui va encore aller plus rapidement dans les prochaines années. Donc, ceux qui aiment le transport, ceux qui aiment les trucs un peu futuristes, là, vous allez en avoir pour votre argent dans le Journal de Québec, sur nos plateformes web. Et je vous invite à le lire. Ça m'a tellement emballée d'écrire ça. J'y ai mis toute mon énergie.
Les dernières semaines. Oui. pour nous gâter en tant que lecteur. Merci beaucoup d'être passé. C'est un bonheur de t'avoir reçu. Stéphanie Martin, qui signe tous ses textes suite à un voyage en Corée du Sud pour parler de transport, pour observer comment ça se passe à l'international. Et la Corée du Sud a été choisie parce que c'est un des endroits dans le monde où ils sont avant-gardistes et très sérieux dans ce qu'ils offrent à leur communauté. Bonne continuité.
Merci, Pascal.
Boulevard 101, ce qu'on s'offre, c'est Caravane avec Maxime. De l'autre côté, c'est sûr qu'on va faire un petit tour d'actualité, mais on va revenir sur la question que je vous avais posée au début de l'émission. Vous avez été nombreux à continuer d'écrire, puis certainement, on est en attente en ce moment du point de presse Attal et Legault, les liens entre le Québec et la France qui sont partout dans l'actualité au courant des dernières heures. Et notre collègue Jeff Fortin y est sur place, donc il va nous revenir avec des nouvelles dans la programmation de Boulevard 101 au courant de la journée. Merci d'avoir choisi leur CV. Caravane, comme je vous disais, Maxime.
Leur CV avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 101.
Ça a attiré votre attention, là, les taxis volants prévus pour 2025, soit l'année prochaine, là, aussi simple que ça. En Corée du Sud, certains y voyaient la DeLorean volante de retour dans l'actualité, mais c'est plutôt sous forme de gros drones, là, un genre d'hélicoptère. Quelqu'un qui dit « Marchand, lui, aimerait ça, rester là avec tous les transports en commun ». Des gens qui se posent des questions à savoir si c'est syndiqué là-bas. En partie, il y a certains syndicats, oui, exact, dans le transport, mais pas partout. Quelqu'un qui commentait aussi, ne font pas de politique aérienne contrairement à ici. Exemple, je suis le maire, c'est moi qui décide. ça va un petit peu plus vite que ça, mais surtout, ils consultent leurs citoyens. C'est ce qu'on retient des prochains textes, en fait, qu'on va pouvoir lire sur le transport en Corée du Sud. Je ne savais pas qu'il était aussi développé de ce côté-là. C'est intéressant, ça. C'est intéressant de se comparer, mais c'est surtout intéressant de le tester. À l'information aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. C'est un gros vendredi. Je vais terminer avec ça à vos côtés. La débâcle informatique à la SAQ, bien, il y a la vérificatrice générale qui va ouvrir une enquête. Ça a été long avant qu'on puisse avoir ce type de nouvelles-là, mais c'était essentiel, je pense, d'après tout le monde. Avez-vous encore des problèmes avec la SAQ, Cluc? Est-ce que ça vous a importuné puis ça continue de le faire? Avez-vous eu... ce que je vais appeler des dommages collatéraux informatiques et de transport, justement. Dans vos dossiers ou autres, ou des paiements faits qui ont passé, vous êtes en train de vous battre encore pour vous faire rembourser un permis que vous avez payé, puis finalement, c'est lu comme étant non payé. 418-971-1021, mais plus d'un an après ce lancement-là chaotique de la nouvelle plateforme informatique de la SAAQ Click, de la Société de l'assurance automobile du Québec, on s'en va en enquête. Là, il y a la vérificatrice générale du Québec, elle s'appelle Guylaine Leclerc, qui va lancer un audit sur le déploiement de cette plateforme-là. L'opération a donné lieu à des mois d'attente, à des mois de ratés. Je pense que je n'ai pas besoin de vous parler du cafouillage, là. Tout le monde l'a vécu, ou presque. Et voilà, c'est la nouvelle qu'on apprenait ce matin. Parlant de Bruno Marchand, il est déçu de la LNH. Hein? Bon, bien sûr, on veut toujours ramener le hockey dans l'actualité, mais on nourrissait des espoirs, même s'ils n'étaient pas grands. On se dit déçu de constater que Québec ne semble toujours pas faire partie des plans d'expansion de la Ligue nationale de hockey. Je passe vite là-dessus. On n'est pas surpris. Le retour de la surchauffe en immobilier, aussi le marché immobilier qui fait réagir depuis plusieurs semaines. On pensait que ça allait se calmer, certaines accalmies, plus rapide que ça. C'est pas le cas. Les gens qui veulent acheter une maison vivent avec une pression certaine. Là. Les prix montent trop vite. Les gens se relancent dans leurs offres d'achat. On est nombreux à rechercher une propriété idéale dès maintenant et ça fait monter les prix. Je pense qu'avec le coût des loyers, plusieurs personnes qui se questionnent en se disant « ben là, ce serait même le coût de mon hypothèque. Fait que pourquoi pas investir en immobilier? » Mais c'est complexe. C'est très, très complexe. Puis on est de tout cœur avec vous. Pour ceux qui sont propriétaires aussi, qui vont devoir se départir de leur maison vu la signature à nouveau des taux d'intérêt, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en sont stressées de ça. Trois arrestations dans une frappe à Lévis pour la guerre des stupéfiants. Ça continue de faire jaser. Donc, on était encore là-dessus hier. Et je dois vous dire qu'on attend le premier ministre François Legault et premier ministre français Gabriel Attal dans une prise de parole à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de choses à discuter dans les dernières heures entre eux, l'économie, les échanges commerciaux, entre autres. On a parlé aussi de tout ce qui se passe à l'international en termes de guerre, mais voilà que la visite du premier ministre français continue. Hein? Gabriel Attal qui poursuit sa visite au Québec. Peut-être que les voitures de fonction qu'on a vues dans les dernières heures et les pratiques de transport à moto, en fait, policière, d'escorte policière, étaient dues à cela. Mais voilà. Notre collègue Jean-François est sur place, donc il va pouvoir nous revenir avec l'information. Et la prise de parole, si vous dites « Ah, c'est pas important, ça m'intéresse pas » ou que c'est se leurrer, parce qu'honnêtement, ça va mettre le ton sur nos alliés pour les prochaines années, autant économiques que politiques et sociaux. Je pense que ces rencontres-là sont essentielles. Est-ce qu'il en découle beaucoup de choses importantes? Bien là, ça dépend ce qu'ils font avec leurs rencontres. Chose certaine, c'est essentiel. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Merci d'avoir été dans l'heure CV. On se retrouve dans un instant pour Marceau le midi. On a un gros horaire, un gros, gros horaire dans Marceau le midi. On a beaucoup de sujets pour vous, mais on ne se prendra pas au sérieux parce que c'est la fin de la semaine. Et je vous rappelle encore une fois le concours qu'on a à Boulevard 102.1. Quand vous entendez Blink-182 sur nos ondes, vous allez sur le blvd.fm section concours et vous allez indiquer l'heure à laquelle vous avez entendu une chanson de Blink parce que ça vous pourrait vous permettre de partir en road trip, même c'est un vol, l'hébergement, de l'argent de poche et des billets pour aller voir Blink-182, ainsi que les Blue Jays au baseball directement à San Francisco en juillet prochain. Donc, c'est simple comme bonjour. Quand vous entendez votre toune de Blink-182, vous vous inscrivez 2 inscriptions possibles par jour. Je rappelle le proverbe du jour. Proverbe québécois. Qui tient la poche est aussi coupable que celui qui met dedans. En fin de semaine, restez calme, mais faites des niaiseries assez pour ne pas vous faire prendre. Surtout, amusez-vous. Passez de belles journées de week-end. C'est tout ce que vous méritez. Nous, on se retrouve pour l'heure CV à 10h lundi prochain. Pour le reste, c'est Marceau le midi et Gravel dans le retour. Donc, c'est sûr que vous aurez un bon vendredi. Salut tout le monde. Gravel.